Il est en train de mettre une paume de café.
Donc, on a déjà fait les autres lettres, c'est pour ça que je ne le refais pas. On va commencer la... Allez, rabotaille. On va commencer la lettre 28. Mais en fait, avant de commencer la lettre 28, on va devoir réviser la première partie de la lettre 27. On l'a déjà faite l'année dernière, pour ceux qui étaient là au cours.
C'était quoi, rappelle-moi.
Alors justement, j'ai écrit dans le SMS, le thème c'est le sens profond du Niloula. Qu'est-ce que c'est une Niloula ?
Ah oui, on en avait parlé. Ça.
Donc on en a parlé déjà un petit peu, c'est ce que je vous dis. Le début de la lettre, on en a déjà parlé. Donc en fait, moi ce que je vais étudier, c'est la lettre 28. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, voilà. Prenez la page 290. Page 290.
T'as compris,
donc, je vous rappelle qu'on est dans les 30 jours avant la Hiloula du Rabbi. La Hiloula du Rabbi, c'est le 3 Tammuz. Je suis en train d'organiser un voyage pour ceux qui sont intéressés. Les billets sont un peu chers, mais bon, le 3 jours. C'est le 11 juin. Et donc, on est dans les 30 jours avant le 3 Tammuz et on peut pas aller comme ça chez le Rabbi. Il faut se préparer. Donc c'est pour ça que les prochains cours, ça veut dire les 3-4 prochains cours, vont parler sur le sens profond d'une Hiloula pour comprendre qu'est-ce que c'est une Hiloula et pourquoi chez les Chassidim en fait particulièrement une Hiloula. C'est un sujet qui est très intéressant. Alors, dans le monde séfarade, le concept des Hiloula n'est pas nouveau. D'accord ? Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Donc, on est à la page 290 en bas de la page, la lettre Avzaïn. On va faire la page 290, la page 291 et le haut de la page 292. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, en mai, on l'a déjà fait ça.
Et en fait, il y a
beaucoup de choses, voilà. On va reprendre ça, ça nous ferait une petite révision, au moins d'un coup. Et après, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va attaquer la lettre 28 qui est à la page 294, qui est une très belle lettre qu'on n'a pas encore fait. D'accord? Donc ça nous fera toujours une révision. De toute façon, cette lettre-là, c'est une lettre que les Chassidim révisent au moins une fois par année, donc c'est toujours ça de gagner. Alors, la lettre 27, c'est une lettre, Rav Zayin. Donc tenez, c'est la page 290 pour ceux qui veulent suivre.
On y est là.
Donc, c'est une lettre que l'Admour Hazaken a adressée au Chassidim après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Alors, il faut que je vous explique un petit peu qui était Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qu'on appelle également Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Horodok et Vitebsk, c'est deux noms de villes. Une partie de sa vie, il a vécu à Vitebsk.
Ah, c'est le même.
Et une partie de sa vie, je suis là. Et une partie de sa vie, il a vécu à Horodok.
C'est le même.
Ce Rabbi Menachem Mendel était l'élève principal du Magui de Meserich. Vous savez que, je rappelle, le Baal Shem Tov dont on a fêté la Eloula Shavuot, il avait un élève, l'élève principal. Enfin, il avait beaucoup d'élèves, mais l'élève principal, c'était le Magui de Meserich. L'élève principal du Magui de Meserich, donc on est de maître en élève jusqu'au Baal Shem Tov, c'était Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Ce Rabbi Menachem Mendel de Horodok, c'est lui qui était le responsable des Chassidim. Seulement, on était dans la période dans laquelle la machloket avec les mitnagdim, avec les opposants au chassidisme, était à son paroxysme, était vraiment un point le plus fort. Et Rabbi Menachem Mendel de Horodok n'a pas tenu, c'était trop dur pour lui de rester en Russie ou en Ukraine ou même en Lituanie avec la machloket qu'il y avait. Il a dit aux chassidim, il leur dit, écoutez, moi je fais la Aliya, celui qui veut me suivre, qui me suive.
En Israël.
Et moi je tiens plus. D'ailleurs, ce Rabbi Menachem Mendel de Horodok a fait sa Aliya, et il a demandé à l'Admor Hazaken, l'auteur du Tanya, de le remplacer en Russie et en Ukraine. D'accord? Et donc c'est de là que l'Admor Hazaken, qui était relativement jeune à cet âge-là, donc il devait avoir à peu près 40 ans, à cet âge-là, il lui a dit, écoute, toi tu restes, tu me remplaces. Alors, c'était toute une longue histoire, parce que l'Admor Hazaken, dès qu'il a appris que Rabbi Menachem Mendel de Horodok partait en Israël, il a dit, je pars avec vous. D'accord? Et vous voulez partir. Et il y a des chassidim qui l'ont supplié. Ils l'ont dit, oui, mais vous allez partir, qui va rester ici? Et à la fin, ils ont réussi à le convaincre de rester. C'est-à-dire que normalement, l'Admor Hazaken aurait dû faire sa Aliya. C'était prévu comme ça. Il y a même des lettres dans lesquelles il nous montre qu'il a prévu son déménagement, il a prévu où il allait aller. Enfin, on sait exactement ce qu'il voulait faire. Mais concrètement, les chassidim ont réussi à le convaincre de ne pas faire sa Aliya parce qu'ils ont dit, écoute, il est resté en Ukraine. Et donc, pour ce qui nous concerne, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, lui a fait sa Aliya. Il a fait sa Aliya, il est parti en Israël. Maintenant, les événements étaient tellement difficiles pour lui, tellement difficiles à supporter pour lui, que concrètement, il arrive en Israël, quelques mois plus tard, il est niftar.
Wow.
C'est-à-dire, c'était la machloquette entre les chassidismes et les opposants c'était quelque chose qu'il a eu beaucoup de mal à vivre, et même bien qu'en Israël, techniquement, plus personne ne l'embêtait. Mais c'était quelque chose qui l'a fait tellement de mal et qui l'a tellement épuisé et affecté personnellement que quand il arrive en Israël, il a tenu quelques mois, il est niftar. Alors, cette lettre, c'est la lettre que l'Admour Hazaken a adressée à tous les chassidim suite au départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Les chassidim étaient effondrés. Déjà, on était dans un moment dans lequel les opposants au chassidisme étaient vraiment à leur paroxysme. Ça veut dire que l'opposition était à son paroxysme. Ça veut dire que, par exemple, on n'avait pas le droit de se marier avec les chassidim, on n'avait pas le droit d'acheter des choses chez eux, on n'avait pas le droit de leur vendre. Enfin, c'était vraiment, on les avait mis pratiquement en quarantaine. C'était très très difficile pour les chassidim à supporter
ça.
Mais
dû à quoi ça?
Les opposants.
Par rapport à quoi? Par rapport à la philosophie?
Par rapport à ceux qui étaient...
Il y a un moment où il y avait une haine de tout ce qui était nouveau, parce qu'on sortait de Shabbat Haïsvi...
Ça, c'est pas le... Bon, ça, c'est pas le sujet. En tout cas, ça a peut-être démarré une bonne intention, mais les chassidim ont beaucoup, beaucoup souffert. Il y a des lettres qui témoignent de ça. En tout cas, voilà, on en était. Donc, les chassidim étaient particulièrement effondrés. Pourquoi ils étaient effondrés? Parce que, tu t'imagines... non seulement qu'on souffre, en plus, on avait un grand rabbi, maintenant, il est rabbi, le Magui de Meserich et Niftar, il s'est fait remplacer par le rabbi Menachem Mendel de Horodok, de Vitebsk. Lui, il est encore Niftar, quelques mois plus tard. Où on va comme ça? Alors, l'Admor Hazaken, qui est à un très jeune âge, on a dit, il avait la quarantaine, il a dû reprendre la direction des chassidim, il va écrire à ce moment-là aux chassidim une lettre pour les consoler, une lettre exceptionnelle. Exceptionnelle cette lettre, dans laquelle il va leur expliquer quel est le sens d'un tzaddik. Et comment, en vérité, un tzaddik, après sa mort, il peut continuer à rester vivant? C'est une lettre, mais vraiment exceptionnelle. Vous savez, des fois, dans des moments de tristesse comme ça, les tzaddikim sont obligés de sortir l'artillerie lourde pour essayer de calmer les chassidim, parce que là, les chassidim étaient complètement effondrés.
Mais il a écrit la lettre beaucoup plus tard,
non, après la mort. Non, juste après la mort.
Ah, j'ai cru son départ.
Tu m'as dit à son départ la lettre 27 en 1780.
Non, non, là j'ai fait la lettre 27, là. Oui, pas la lettre 28, hein.
Pardon, la lettre 27.
Ouais.
Comme quoi, il a écrit la lettre en 1788, alors que il a fait sa alliée en 1777.
1777.
11 ans.
Je sais pas, moi, chez moi, c'est écrit que c'était une lettre de consolation qu'il a fait juste après.
Parce que tu as dit qu'il est son départ.
Il est mort tout de suite après sa alliée.
Okay, quelques temps après, ouais.
Non, parce que.
Alors, peut-être une autre version, combien de temps il est resté en Israël?
Si, iPhone, tonne.
Bon, on va visiter. On va vérifier. Moi, j'ai compris. Bon,
il faut rester dans son monde à lui.
Moi, j'ai pas les dates ici.
Ah, c'est badat, ouais.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette lettre, c'est une lettre que l'Admor Hazaken a adressée à tous les chassidim. Vous savez, dans les lettres, il y avait des lettres privées, des lettres publiques. Ça, c'est une lettre publique qu'il a adressée à tous les chassidim pour les consoler après la mort de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Et dans cette lettre, il va nous expliquer en vérité qu'est-ce que c'est un tzaddik. Ça veut dire, en vérité, dans cette lettre, il va leur montrer que même si physiquement Rabbi Menachem Mendel de Horodok est niftar, il continue toujours à nous accompagner. Alors, c'est une phrase qu'on entend toujours. Vous savez, quand chaque fois qu'une personne, chaque fois qu'un tzaddik part, d'accord, même quand c'est pas un tzaddik, toujours quand on va à des enterrements, des trucs comme ça, on dit bon, il est toujours parmi nous. Mais bon, honnêtement, au fond de nous, on se dit bon, c'est les paroles que le rabbin a dit pour calmer les gens, mais bon, il est mort, ça y est, oui, il est toujours parmi nous. D'accord? Donc, bon, c'est une belle parole pour consoler, mais c'est faux. D'accord? Et là, il va nous expliquer comment, en vérité, cette parole est vraie. Mais il faut expliquer pourquoi elle est vraie.
D'accord,
qu'il va revenir. Et comment elle est vraie. Non, j'ai pas dit qu'il va revenir. J'ai dit que maintenant, il est encore avec nous.
Il est assis là. Tu bois.
Comment? Comment on peut dire une chose comme ça? Il est mort. Tu peux lui parler, il peut te répondre. D'accord? Alors, sachez que cette lettre, ça fait un grand tollé dans le monde ashkenaz. Dans le monde séfarade, on a l'habitude des iloula. On a l'habitude que quelqu'un, même une fois qu'il est niftar, on parle avec le tzaddik encore, on va à sa tombe et on communique avec lui. Ça veut dire, on lui demande des brachot, etc.
Justement, on va là-bas.
Mais dans le monde ashkenaz, c'était nouveau, ça.
Ah, mort, c'est mort.
Hein. Ah, d'accord? Il est.
Ah, c'est pour ça qu'ils sont froids.
Vous savez, c'est le Hayom Yom d'aujourd'hui. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il dit comme ça. Il dit que toute chose. Les chassidim, ils expliquaient que chaque chose de notre corps, on peut l'expliquer spirituellement. Et ils ont dit, même le mort, on peut expliquer spirituellement. C'est quoi le mort? C'est quoi la différence entre un mort et un vivant? C'est que le vivant, il est chaud, et le mort, il est froid. Alors, les chassidim, entre eux, quand ils voulaient dire qu'on n'utilise pas, on n'a pas assez d'énergie dans la voie de Hachem, ils disaient, le service de Dieu, des fois, il peut être mort. C'est quoi mort? Ça veut dire que des fois, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de chaleur.
Ben oui,
pas de chaleur.
Mort, c'est ça.
Ben oui. D'accord? C'est quelque chose qui n'a pas de chaleur. Bon. Maintenant, on va passer directement à la lettre de consolation. Donc, je vais accélérer un petit peu dans cette lettre, parce qu'on l'a déjà faite une fois. Mais on va l'expliquer quand même, hein, vous inquiétez pas. Donc, je suis dans la lettre 27. Alors, on va lire une toute petite lettre. D'accord? C'est l'introduction. Ma shekatav, ce que l'Admor HaZaken a écrit, les donc au Chassidim, Yoshvé Artsenu Akdosha, la lettre qu'il a écrite au Chassidim qui était installé en Israël, Tibane Vetikolen Mimravia Menu Amen, que la terre donc d'Israël que sera reconstruite très prochainement, Amen. Lenachamim, pour les consoler, Bechiflaim les Toshia, et pour les aider à se relever, Al Ptirat Arav Agon Amefursam, suite au départ du Rav Gaon et très connu, Ish Elokim Kadosh, l'homme de Dieu Kadosh, d'accord? Ner Israël, Amoud Ayemani Patish Razak. Bon, ça, c'est des expressions pour dire la flamme d'Israël, etc. Moré Noirav, Rabbi Menachem Mendel. Donc, il parle ici de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui est Niftar en Eret Israël. Donc, c'est une lettre qu'il a écrite, les Nachamam, pour le consoler. Alors, il leur dit comme ça. Maintenant, on passe aux grandes lettres. Aouvai, Achai, Verehai, Asher Kenafshi. Mes bien-aimés, mes frères et mes amis, Asher Kenafshi, qui me sont proches comme ma famille. D'accord? Donc là, il s'adresse au chassidim. Hachem alem ichyu chayim adaolam. D'accord? Donc il leur dit que paix soit sur vous jusqu'à, d'accord, adaolam, jusqu'à la fin des temps. Vetzetzem itam zera emet. Et donc il souhaite la bracha pour eux et pour leurs descendants. Zera emet, bruch hachem emam atav adaolam. Ça, c'est l'introduction de la lettre. Vous avez remarqué que toujours, l'Admor HaZaken, lorsqu'il commence ses lettres, d'accord? Toujours dans l'introduction de ses lettres, il donne une bracha. Commence pas la lettre comme ça en disant bon voilà pourquoi je t'écris, d'accord. Alors nous en général dans les courriers on écrit la formule de politesse dans laquelle on souhaite à la personne veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. Alors tu veux pas te le voir en peinture mais tu écris veuillez agréer mes salutations les plus distinguées, ça tu l'écris à la fin du courrier. Oui, veuillez agréer mes salutations les plus sincères. D'accord. Alors qu'en vérité, alors donc nous on le met à la fin. L'Admor HaZaken il met au début du courrier. Au début du courrier il dit comment allez-vous? Je vous souhaite toutes les brachot possibles. D'accord. Donc, une fois que je vous demande comment allez-vous, donc là maintenant, on vient maintenant au cœur de la lettre. Donc, je suis à la page suivante. Bati, deuxième ligne de la page suivante, de la page 291. Bati, l'Edaber, je suis venu pour parler. Parler de quoi? D'accord? Les d'abers pour parler à Lev Nitkaïm, sur le cœur des chassidim qui sont oppressés. À Nenachim va Nenakim, qui n'en peuvent plus. Ou les Nachamam, Bekiflaim, les Toshia, qui ont du mal à supporter. Donc, pour les consoler, Bekiflaim, les Toshia. Pour les consoler doublement, Asher Shama Ozni. Que, après la nouvelle que je viens d'entendre, quelle nouvelle il vient d'entendre?
Le décès
de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Et il dit, va Tiven là. Et c'est une nouvelle c'est une souffrance que je comprends. Ça veut dire comme ça. Vous savez, la Gemara, elle dit, que la plus grande consolation, c'est quand c'est une personne qui est passée parce que cette personne est passée.
Ouais, qui a vécu.
Ça veut dire, par exemple, la Gemara, elle dit qu'il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Yochanan et qui toujours, sa mitzvah, c'était d'aller consoler les gens qui avaient perdu des membres de leur famille. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a enterré 11 enfants. 11 enfants. Et lui, Rabbi Yochanan, quand il venait dans une salle pour être Menachem, pour consoler une personne qui avait perdu des proches, quand il rentrait dans la salle, lui, on savait que c'était du sérieux. C'est pas juste un rabbin qui raconte des trucs qu'il a. Non. On sait que c'était du sérieux. On sait que lui, il répète.
Il portait une phalange d'un
oui, d'après une version, il portait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui, ce Rabbi Yochanan, c'était une personne, c'était du vécu. Tu comprends, quand une personne comme ça, il rentre pour te consoler, tu l'écoutes. Parce que tu dis, c'est pas juste quelqu'un qui me répète quelque chose qui est écrit dans les textes. Il me raconte du vécu. Et donc, l'Admor HaZaken, il dit au Chassidim, il leur dit, écoutez, je suis pas là en train de... Ah. D'accord? Il dit, je suis pas là en train de... C'est bon? Tu nous armes un peu de soleil?
Ouais, plein de soleil.
Hein? Nevers?
Les casseroles d'eau, il a ramené.
Nevers again?
Ah, quand même.
Un peu d'eau?
Le plus important, c'est le l'Ireim.
C'est toi.
J'ai ramené les chips.
Voilà, ça, c'est le plus important.
Il y a du gâteau, si tu veux, d'ailleurs.
Donc. L'Admor HaZaken, ici... L'Admor HaZaken nous dit au Chassidim, il dit, mon but, c'est quoi? C'est de vous consoler. Et va tiven là. Havana en hébreu, ça veut dire quoi? Léavine, Havana.
Comprendre.
Comprendre, Razak. Encore prépare la lia, je vois.
Bah ouais.
Alors. Donc, va tiven là. Ça veut dire, il dit, je vous comprends. C'est pas simplement quelque chose que je vous écris une lettre de consolation parce que je dois le faire. C'est quelque chose que je vous comprends parce que je sens ce que vous ressentez. Je ressens ce que vous ressentez. Je sais que c'est un moment très douloureux pour nous, le fait d'avoir perdu Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Al ma'amar razbotenu zichronam livracha shavak chaim lechol chay. Et il dit, et vous savez en vérité, qu'est-ce qui m'a consolé? Je pense que ce qui m'a consolé réussira à vous consoler. Qu'est-ce qui a réussi à le consoler? L'Admor HaZaken dit, ce qui m'a consolé, c'est quand j'étudie un texte. Il y a un texte dans la Gemara qui dit comme ça, qui dit, que chaque fois qu'on parle d'une personne qui est niftar, qui est décédée, on dit, d'ailleurs même dans les tombes, dans les pierres tombales, c'est écrit, Shavak Chaim Lechol Chai. On dit que celui qui est niftar, il a laissé la vie, Lechol Chai, à tout ce qui est vivant. D'ailleurs, en passant, vous avez remarqué que quand on va dans un cimetière, comment on dit un cimetière en hébreu? Bet Hachaim. Mm. La maison des vivants. D'accord? Pourquoi tu dis la maison des vivants? C'est... Alors, il y en a qui vont te dire, oui, bon, c'est une belle parole. Quoi, belle parole? Il est mort, ils sont morts, ils sont morts. C'est un cimetière, ça sert à rien de tourner autour du pot. Bah oui, la maison des vivants. Quoi, à quoi on joue? D'accord? Bah oui, c'est la question que je pose.
C'est nous qui sommes morts et c'est eux qui commencent à dire.
Bah oui, ils ont laissé derrière eux plein de choses.
Alors.
Ils ont laissé derrière eux.
La vraie vie, c'est après.
Oui, mais c'est malhonnête d'appeler la maison des vivants alors qu'ils sont morts. D'accord, c'est malhonnête.
Ouais.
C'est comme tu rentres dans un endroit et t'as des gens qui sont pauvres et tu dis la maison des riches. Ben, ils sont pauvres, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas les rendre riches.
Ah,
Serge, le gars, il a une 4L, tu lui dis, Khazak ta Ferrari. C'est une 4L, Ah, il a compris.
J'ai dit, mec, parle Ferrari, il dit, mec,
il prend. Alors, c'est quoi l'explication?
Ah, oui.
Il n'y a plus de 4L.
Non, là, attention. Tu me dis, il y aura une nouvelle naissance. Mais moi, je parle des gens qui sont enterrés maintenant, au cimetière. Excusez-moi, ils sont morts.
Mais qui appelle ça d'abord Bet Hachaim?
Alors, justement, dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle Bet Hachaim. Pas seulement ça, ça vient de la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, quand une personne meurt, c'est quoi l'expression qu'on dit? On dit pas il est mort. D'abord, on dit il est niftar. C'est quoi niftar?
Il est tombé.
Niftar, ça veut dire, il nous a dit au revoir. Il nous a quitté. Quoi, il t'a quitté? Mais il est mort.
Ouais, mais c'est qu'un or.
Attendez.
Ah,
non, ça veut pas dire il est parti. Ça veut dire il nous a quitté. Comme quelqu'un, il a quitté, il a déménagé.
Pour l'instant.
Il a quitté, il est parti.
D'accord? Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est la Gemara qui nous dit de manière générale, quand une personne part de ce monde, on dit qu'il est Shavak Chaim Lechol Chai. Qu'il a laissé la vie, ça veut dire, il a laissé la vie à tout ce qui est vivant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore plus vivant qu'avant. D'accord? Il a laissé la vie pour la vraie vie. Ça, c'est l'expression de la Gemara. Ouais. Il a délaissé la vie pour la vraie vie. Donc, ça, c'est une question que le Razakan me pose. Il dit, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara a dit qu'une personne qui décède, il laisse la vie à la vraie vie? Mais il est mort.
La vie est du blond.
D'accord? Donc, rappelez-vous, le but de cette lettre, c'est quoi? C'est de consoler les chassidim. Mmh. Et de leur expliquer qu'en vérité...
On le fait travailler.
Bah.
Voilà. Tu retournes là-bas, David?
Non,
non, parce qu'il y a du houmous dans le frigo.
Alors,
il y a deux gros pots, un seul suffit.
Il mange pas de craquer, hein? Alors,
on va craquer pour les
craquer. Azak.
Mais je sais pas si
Bet
Hachaim c'est marqué dans la
Guimara. Sûr. Ah non, pas du tout. Bet Hachaim. Shulchan Aruch partout. Bien sûr. Dis Bet Hachaim.
Oui.
Le terme Bet Hachaim n'existe pas. Bet Hachaim.
Bet Almin.
D'accord. On dit jamais même Bet Almin. Vous savez ce que ça veut dire Bet Almin? C'est quoi Bet Almin? Non. Non. C'est en araméen. D'accord.
Maison des
veuves. La maison de ceux qui, Almin, ça veut dire la maison de ceux qui sont cachés.
Sympa.
Cachés, tu
vois. Comment ils sont cachés, je vous le demande.
Cachés, ça veut dire quoi, cachés? Toujours. On dira jamais la maison des, on dira jamais l'endroit où les gens sont morts, sont enterrés. Pourquoi?
J'ai sorti des assiettes avec des olives.
D'accord? Allez, rabotez, ce soir. On a beaucoup de choses à dire, là. On comprend, là. Alors, pourquoi Bet Hachaim? D'accord? Donc ça, n'oubliez pas, c'est la question que l'Admor HaZaken pose aux Chassidim. Il leur dit, je me suis toujours posé la question, pourquoi le cimetière on l'appelle Bet Hachaim? Pourquoi quand une personne part de ce monde, on dit que il a laissé la vie pour la vraie vie? Mais il est mort! Alors il explique. Il dit, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est applicable de manière générale pour toutes les personnes qui partent de ce monde. Et particulièrement pour les tzadikim. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Pourquoi? Kit tzadik be'emunato ichie. Parce que la question qu'on se pose est la suivante. Il dit, c'est très simple. On parle toujours du leg d'une personne. Quand une personne part de ce monde, qu'est-ce qui nous laisse? Du leg. Leg.
Un héritage.
Ce qui nous laisse.
Ah, légué, d'accord.
D'accord. Qu'est-ce que la personne
nous laisse? On voulait prendre un hébreu, il comprend plus.
Qu'est-ce que la personne nous laisse, finalement? Une personne qui part de ce monde. Vas-y, Marcel. Tu as aimé la question, donc maintenant, vas-y, la réponse. Oui, qu'est-ce qu'il laisse?
Un savoir, une éducation.
Il a dit, il n'y a pas d'argent.
Dites-moi honnêtement ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qu'il a laissé?
Les enfants.
Que les mitzvot qu'il a fait, c'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'il a fait autour de lui, en fait, en général.
Il a laissé beaucoup de choses. Il peut laisser de l'argent.
Non, mais en dehors du matériel, il
n'y a pas. Non, non, je parle, mettons carte sur table. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut laisser? Il peut laisser de l'argent.
Les bagnoles, les appartements.
Il peut laisser, donc ça veut dire.
Les maisons.
Donc il peut laisser du matériel. Il peut laisser. Il peut laisser une éducation. Il peut laisser un savoir-faire. D'accord? Mais un tzaddik, quand il part, qu'est-ce qu'il nous laisse?
C'est la chose, à la base, c'est la même chose déjà.
C'est Belachot, sa lumière, son savoir.
Pourquoi on allait voir un tzaddik de son vivant? Pour qu'il nous donne de l'argent?
Non.
On allait le voir pourquoi?
Des bénédictions.
Des bénédictions.
Pour avoir des enfants. D'accord. Pour se marier. Pour
quel est le legs d'un tzaddik? Quand un tzaddik il part de ce monde, qu'est-ce qu'il a laissé à l'humanité?
Une ouvrage, des
il a laissé des brachot, des enseignements. D'accord. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que maintenant le tzaddik, d'où il est, il peut continuer à donner des brachot?
Ben oui.
Oui.
D'accord. Est-ce que les enseignements qu'il nous a enseignés, on peut encore les étudier?
Ben oui.
Alors qu'est-ce qui a changé?
Le fait qu'il n'est pas présent physiquement. Voilà.
D'accord. Mais pourquoi on va voir le tzaddik? C'est pas pour toucher son corps.
Non, pour le voir.
Pourquoi on va voir le tzaddik? J'ai compris. Si maintenant je te dis que de toutes les façons il peut te le faire.
Ah oui.
Oui.
Ces gens-là, concrètement.
Imagine-toi. Je vais vous donner un exemple un peu cru, d'accord? Imagine-toi que tu vas voir tous les jours quelqu'un et que tous les jours il donne un billet de 500 euros.
Elle est belle. Oula, il est où ce mec?
Mais tu regardes même pas sa figure, tu n'en as rien à faire de quoi il a l'air. Tu sais que tu vas le voir tous les jours, il donne 500 euros.
500 euros, tu le
maintenant, le gars, qu'il soit là, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, ça ne change rien, c'est un distributeur. C'est-à-dire que si maintenant un jour il meurt et que tu viens tous les jours à un distributeur et que le distributeur continue à donner 500 euros, tu n'en as rien à faire. Qu'est-ce que ça te change?
Ouais, mais c'est quoi? D'accord.
Maintenant, au lieu de mettre 500 euros, à la place de 500 euros, mettez des brachot.
1000 euros. Oui,
c'est pareil. Qu'est-ce que ça change? D'accord? Attention, on va devoir travailler. Je suis pas en train de dire qu'on ressent pas la mort d'un tzaddik. Bien sûr qu'on la ressent. Parce que nous sommes des humains. Et un homme a besoin d'avoir un contact physique. De voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un. C'est très important. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de contact. Mais ce que la Gemara Zaken veut expliquer ici, qu'on va développer dans les mots, c'est qu'en vérité, la vraie vie d'un tzaddik, c'est pas sa vie corporelle, c'est pas sa vie physique. Sa vraie vie, c'est quoi? Ce qui fait qu'il est un tzaddik, c'est quoi? C'est son côté spirituel. Et son côté spirituel, est-ce qu'il reste une fois qu'il est parti de ce monde?
Encore plus, peut-être.
Non seulement qu'il reste, Razak, Monsieur Bismuth, non seulement qu'il reste, t'es avec nous, Eli? D'accord? Non seulement qu'il reste, mais peut-être qu'au contraire, il est encore présent, encore plus qu'avant. On est d'accord? Regardez. Quand je vais voir un tzaddik, pourquoi je vais le voir? C'est pas pour qu'il me donne de l'argent. C'est pas parce que j'ai envie de voir son visage. C'est pas parce que j'ai envie de l'entendre. C'est parce que je vais profiter spirituellement. Si je te dis maintenant que même quand il est parti de ce monde, tu peux toujours continuer à profiter spirituellement. Mais c'est compliqué. Le plus compliqué, c'est de l'admettre. C'est un travail intérieur. Ça veut dire, en vérité, ce que je vais développer ici, et qu'on va développer longuement, en long, en large, c'est qu'il n'y a aucune différence quand on allait au 770 pour voir le rabbi et qu'on le voyait physiquement, que quand aujourd'hui on va au EL du rabbi. Il se passe exactement excusez-moi. Ça veut dire qu'au niveau de la Neshama, d'accord? Il se passe exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est que ma Neshama communique avec la Neshama du tzaddik. Exactement la même. Et peut-être même plus, comme on va expliquer. Alors, très bien. Seulement quoi? Il y a plusieurs éléments, comme Serge a dit. D'accord? Numéro 1, on a besoin d'un feedback. Ça veut dire que quand tu parles à quelqu'un, t'as besoin qu'il te réponde. Là, je l'entends pas me répondre. D'accord? Mais il me répond. Il m'écoute. D'accord? Et il exauce mes demandes. Attendez. On y arrive, d'accord? Il m'écoute et il communique avec moi. Il trouvera la manière de me répondre. Donc, en vérité, le travail le plus difficile, c'est quoi? C'est de l'admettre. Très difficile. Vous savez, des fois, quand tu vas au El du Rabbi, et qu'avec tout ce que tu te prépares de dire que c'est la Kdoucha et que le Rabbi, il est là, etc., quand des fois, à un certain moment, tu ouvres les yeux et tu dis, mais mince, il y a une tombe devant moi, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail à faire sur sa personne. Ça veut dire qu'en vérité, le plus dur, c'est pas pour la Neshama, parce que la Neshama, que ce soit quand on était avant 94 ou que ce soit maintenant, la Neshama elle communique avec le tzaddik exactement de la même manière et peut-être même plus comme on va développer plus tard. Selon qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que comme le corps n'a pas de, on va dire, de contact physique avec le tzaddik, il n'entend pas le tzaddik, il touche pas le tzaddik, il ne voit pas le tzaddik, Donc c'est plus compliqué à vivre. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a créé que pour vivre quelque chose, il faut le vivre avec les cinq sens. Et plus les sens participent, et plus on le vit. Ça veut dire quand tu entends quelque chose, tu le vois, tu le touches, d'accord, etc., tu le sens. Quand, plus les sens participent, et plus on vit la chose. C'est comme ça. Ah, c'est vrai. Tu as raison, c'est un bon point ce que tu veux dire. Mais concrètement, Akadosh Baruch Hu nous a créé avec une nature que plus on sent quelque chose avec nos sens, et plus on le vit. C'est comme ça. Bon, on ne pourra pas changer.
C'est pour ça. Moi, je dis ça parce que peut-être si tu le vois, tu ne vas pas oser dire le truc. Tu ne vas pas oser. Tu vois, alors que tu vas vivre plus de trucs si tu.
Donc voilà, oui, ce qui est bien.
Tu vas.
Donc toi, tu dis qu'on se permettra plus. C'est vrai. C'est un bon point ce que tu dis. On va développer tout ça.
Il a raison ce qu'il dit. Les preuves sont.
Tu te permets plus. Parce que tu n'as pas. Donc ce qui veut dire, c'est que tu n'as pas le blocage naturel que tu as devant une personne. Parce que là, c'est un échama qui parle.
Ça dépend, c'est une question de timidité ou pas.
J'ai pas encore expliqué en quoi c'est plus fort.
Il y a des choses que tu ne peux pas dire.
J'ai pas encore expliqué.
Quand il n'est pas là,
je veux simplement expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on va pèleriner. Ça veut dire quoi quand on va pèleriner? Pas seulement pour un tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire quand on va pèleriner? Alors c'est très simple. Quand on va pèleriner, ça veut dire que c'est ma neshama qui communique avec la neshama de la personne. Parce que ce que je dis, c'est comme ça. D'accord?
Nickel. Moi, tu le verras.
Les Chaim. Je montre tout le monde à les Chaim. À les Rabotai. C'est bon?
En pèleriner, il y a pélé.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam shehakol nia bidvaro.
Amen. Amen.
C'est du zéro, hein?
Non, je sais.
Non,
mais
un
demi verre.
Lévis qui est comme moi. Qui c'est qui est Lévis qui?
Il est là derrière. Là.
Merci beaucoup.
T'es sûr?
Oui, merci beaucoup.
Tiens. À la cuillère.
Du whisky zéro.
À la cuillère, d'accord.
Ouais. C'est zéro, ça.
Un petit calorie. Note pour éponger.
Pas de calories là.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam borei minei mezonot.
Amen. Certifie qu'il n'y a pas de calories.
Ah, t'as dit que c'est ça.
Je vais chercher où il sort. Alors. Haïm
Il a un bon goût d'œuf de poisson pour le cabillaud.
C'est pas le mien.
Je sais pas, mais il a pas une belle couleur.
C'est des œufs.
Je sais pas, il a un goût d'œuf fumé.
Ouais. Allez, rabotage. C'est bon, on est prêt, on continue.
Ah ouais.
Marcel, il veut entendre la réponse à la question.
Marcel, donne-nous la réponse.
Alors,
tu m'as piqué.
On va, vous savez quoi, on va continuer dans les mots. D'accord. Qui tzadik Bemunato Irie. On va reprendre les mots. C'est bon? Mm-hmm. Allez, ouais. Dans les mots, on est. Page.
Quatrième ligne.
Alors.
La fin de la quatrième ligne, Kitsadik, et on
voilà. Début de cinquième ligne. Kitsadik Bemunato Irie. Car,
David, on a commencé à la 27.
Ça...
Oui, je sais, mais on refait le début de la 27 parce que la 28, elle se base sur la 27. On l'a déjà faite la 27, mais je refais le début. Oui, on l'a faite l'année dernière, mais. Qui tzadik be emunato irie. Car le tzadik vit avec sa emuna. La croyance. Ou be irat Hashem le chaim. Ou be rishfe shal evet. Ou be rishfe es shal evet ahavato. La chol ba'em chaye rucho venishpato. Il dit comme ça. Il dit finalement, qu'est-ce que c'est le tzadik? Qu'est-ce que c'est la vie d'un tzadik? Si c'est pas un tzadik, imaginez que c'est pas un tzadik. Tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai posé une question. Je vous ai dit, quand une personne y part de ce monde, on se pose la question, quel est son leg? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Rakshnia, deux secondes. Pour comprendre qu'est-ce qu'il nous a laissé, il faut comprendre dans quoi il a travaillé sa vie. Quand c'est une personne qui était dans les affaires toute sa vie, donc il nous a laissé ses affaires. Une personne lègue les choses sur lesquelles il a travaillé. On est d'accord? Maintenant, pour comprendre ce qu'un tzaddik nous lègue, il faut comprendre sur quoi il a travaillé. C'est logique.
Est-ce qu'on lègue que le bien ou pas?
deux secondes. On va développer déjà, on va rester déjà concentré parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, pour comprendre ce que un tzaddik nous lègue, il faut d'abord comprendre sur quoi il a travaillé. Quel est le travail d'un tzaddik? Il te dit, c'est très simple. Le travail d'un tzaddik, c'est d'avoir l'amour vers Akadosh Baruch Hu et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu au maximum. Et que le tzaddik, quand il est vivant ici-bas physiquement, c'est quoi son but? C'est de monter, et de s'approcher un maximum possible d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, imaginez ce même tzaddik. Quand il a quitté ce monde, qu'est-ce qu'il est en train de faire d'après vous? Pareil, il fait la même chose. Pour le tzaddik, il n'y a pas de différence entre sa vie en bas et sa vie quand il part de ce monde. Pourquoi? Parce que quand il était en bas, il était déjà extraterrestre.
Pour nous.
Quand il était en bas, son but c'était quoi? Toujours de monter. D'accord? Il était quand même bridé par son corps. Mais concrètement, son but c'était quoi? C'est de monter. Quand il part de ce monde, c'est quoi son but, encore une fois? Monter.
Non, mais tu as dit qu'on ne peut plus monter.
Bien sûr qu'on monte.
Non, tu as dit qu'on ne peut plus monter.
Il monte de niveau en niveau. Non, il ne peut plus rajouter des mitzvot. Bien sûr qu'il monte.
Tridushim, il ne peut plus faire.
Il monte de niveau en niveau, il n'arrête pas de monter.
Il n'y a plus de tridushim là-haut.
Il n'y a pas de tridushim, mais il monte.
Mais sur quoi?
Il n'y a pas de limite.
Mais sur quoi il peut monter? Il
n'y a rien. Mais on monte en compréhension. On monte en compréhension.
Quand tu effleures un sujet ici, et c'est cela que tu as le droit d'étudier en haut, ouais. Donc ça veut dire déjà que tu vas plus que les deux, tu montes.
C'est sans fin. Tu crois qu'on s'ennuie en haut? Tu crois qu'on joue aux cartes?
Non, c'est pas question de ça. Si tu n'as plus de tridushim, tu n'as pas d'étude. C'est tu as question, hein, tu attends.
Phrase de Shalom.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui.
Je sais pas si on dit effleurer.
Alors.
Il y en a qui prennent plein de choses. On dit quand même étudier.
Vayehi. D'accord. Be'alot Hashem Rucho. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque le tzaddik part de ce monde? On va lire quelques lignes et vous inquiétez pas, on va bien commenter. Be'alot Hashem Rucho. Lorsque Dieu récupère l'esprit du tzaddik, lorsque le tzaddik remonte chez Kadosh Baruch Hu. Yesof veyale beilou acharilou yadruma maalot. Donc le tzaddik continuera à monter beilou acharilou de niveau en niveau adruma maalot sans fin. Shavak chaye rucho peulato asher avad ba lefanim beYisrael peulat tzaddik lechaim. Quel est le legs du tzaddik? Le tzaddik nous lègue son travail. C'est quoi son travail? Son travail, c'est le fait que le tzaddik il n'arrête pas de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et que c'est quoi le travail d'un tzaddik? Deux choses. D'abord, il n'arrête pas d'essayer de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et il essaye de tirer le peuple vers le haut. Ça veut dire qu'il essaye d'emporter le Kaal avec lui.
Mais qu'est-ce qu'il fait quand il n'est plus là?
Ah, écoutez. C'est quoi le travail d'un tzaddik ici-bas sur Terre? C'est une personne qui monte et qui essaye d'emporter avec lui ceux qui sont autour de lui. De la même manière que le rachat, Dieu préserve, dans le contraire, il tombe et il essaye de faire tomber avec lui ceux qui sont autour de lui. Bah oui. C'est ça le rachat. Le vrai rachat, le pro, c'est celui qui tombe et qui essaye de faire tomber avec lui un maximum de personnes. On n'aime jamais être seul. Le tzaddik, c'est la même chose. Les Avdil. Le tzaddik, il monte. Et c'est quoi son travail, toujours? C'est d'essayer de faire monter avec lui tous ceux qui sont autour de lui. Ça veut dire comme ça. Quand on a vu, par exemple, je parle du Rabbi parce qu'on s'approche de Guimel Tammuz. On sait que chez le Rabbi, il y avait des moments très très forts, comme par exemple les Chagim. On a plusieurs personnes ici qui étaient pendant les Chagim. Les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Et on sait que le Rabbi, en vérité, c'est un chesed qu'il fait avec nous. Parce que chez le Rabbi, les fêtes de Tishri, la fête de Rosh Hashanah, la fête de le jour du Yom Kippour, la fête de Sukkot, c'est des moments dans lesquels le Rabbi était très proche de Kadosh Baruch Hu. Et par sa bonté, le Rabbi partageait avec les Chassidim cette proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui faisait que les Chassidim se sentaient particulièrement proches de Kadosh Baruch Hu. Ils se sentaient emportés. À tel point que chez les Chassidim, on disait que quand on allait chez le Rabbi pour les fêtes, on faisait les bagages pour toute l'année. On faisait les bagages de simcha, de force, de joie, de tout ce que tu veux, les provisions pour toute l'année.
Le plein.
On faisait le plein. Pourquoi? Parce qu'en vérité, exactement, j'y arrive. Parce qu'en vérité, le tzaddik, un tzaddik, c'est quelqu'un qui est gentil. Un racha, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui veut tout garder pour lui. D'accord?
Généreux,
égoïste. Et le tzaddik, c'est quelqu'un qui est généreux. Et quand il vit un moment spirituel, quand il vit un moment dans lequel il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, quand il vit un moment de proximité avec Akadosh Baruch Hu, il veut faire participer un maximum de personnes avec lui. Vous savez, c'est comme des fois, on se sent, quand on est, imaginez-vous, vous êtes un jour de Simchat Torah, et vous êtes content, vous êtes heureux, et vous voyez quelqu'un qui est assis, qui est là, qui est pas bien. Ça te fait de la peine de le voir comme ça. T'as envie de l'emporter avec toi dans ta Simcha. Parce que t'es tellement bien, et tu te sens tellement bien, t'es tellement content de la fête, que quand tu vois une personne qui n'est pas emportée par la simra, tu as envie de tout faire pour le prendre, pour le pousser à danser, pour l'emporter dans ta simra. Voilà. Imaginez-vous que le tzaddik est comme ça toute l'année. Le tzaddik veut emporter avec lui ses chassidim, ceux qui l'entourent. D'accord ?
Pour donner, les autres sont venus pour prendre.
Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose.
Recevoir.
C'est que ça, ça s'arrête jamais. Ça continue. Ce qui va expliquer tout de suite. Quand on arrive la iloula dans le tzaddik, la iloula dans le tzaddik, c'est le moment dans lequel la neshama du tzaddik, elle monte. Ça veut dire que chaque année, pour répondre à la question de Michael, chaque année, dès qu'on arrive à la date anniversaire de la personne, sa iloula, la neshama, elle monte de niveau. C'est comme ça. C'est comme on renouvelle le contrat, comme on vient de recevoir la Torah, on renouvelle le contrat, la neshama monte de niveau. Maintenant, le tzaddik, il est gentil. Comme, de la même manière que de son vivant, quand il montait, il essayait d'emporter avec lui les chassidim. Quand il vivait une émotion, il essayait d'emporter avec lui les chassidim. Eh ben, le tzaddik continue à faire ça quand il est chez Hachem. Que quand il subit une élévation, quand il va monter vers Akadosh Baruch Hu, quand il va monter de niveau en niveau, il va emporter avec lui tous ceux qui participent à sa iloula. Ça, de qui on apprend ça? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit, tout celui qui participera à la simra de ma iloula, je l'emporterai avec lui dans mon élévation. Ça veut dire que t'as rien besoin de faire. T'as rien besoin de faire. Il suffit simplement de participer à la iloula et tu es happé par le tzaddik. Le tzaddik, il te fait monter avec lui. Il te fait monter avec lui et c'est pour ça que tu te sens dans une autre sphère, tu te sens dans un autre niveau. Là, on commence à comprendre un petit peu. Je reprends. La clé de la compréhension, c'est de savoir quel est le leg d'une personne. Si le leg qui t'a laissé, c'est de l'argent, alors effectivement, dans ce cas-là, quand tu te dis, qu'est-ce qui me reste de cette personne-là? Bah, c'est de l'argent. Donc, il te reste de l'argent. Tant qu'il te reste de l'argent, tant mieux. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais quand tu te dis que le leg d'un tzaddik, c'est quoi? C'est le fait que le tzaddik, il pense toujours à ceux qui sont proches à lui. Et quand il monte, il pense aux autres. Il est généreux, comme vous avez dit. Eh ben, sachez que ça continue, ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est la lettre que la Dmourazaken adresse au Chassidim, la lettre que la Dmourazaken adresse au Chassidim suite au départ de Rabbi Nachman de Rodok. Il leur dit, écoutez, c'est vrai que physiquement, c'est un moment qui est très difficile à supporter parce qu'on ne voit plus le tzaddik et que nos sens n'ont plus le contact physique. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire que maintenant, tout est dans la tête. C'est soit tu réussis à te convaincre et c'est tant mieux, soit t'as ton Etzara qui dit, écoute, c'est du pipeau tout ce qu'il te raconte, il est mort, il est mort. C'est toi et ta conscience. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Vous savez, c'est comme une personne, Dieu préserve, qui va au cimetière pour aller pèleriner sur la tombe d'un proche. D'accord? Sur la tombe d'un parent. À un certain moment, quoi qu'il arrive, d'accord, il ouvrira ses yeux, il dira, mais mince, c'est une tombe devant moi, qu'est-ce que je fais ici? C'est sûr que ça arrivera. Au moins, une fraction de seconde, il y aura une pensée qui va l'effleurer, qui va dire, mais attends, c'est une tombe ici, c'est une pierre. Et il y a un mort qui est là. Qu'est-ce que je fais ici?
Mais pas forcément d'accord devant la tombe.
Oui, pas forcément devant la tombe. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel t'as l'idée qui t'effleure, qui dit, mais attends, mais il est mort, ça y est. Et c'est après un travail mental que je dois faire de me dire qu'en vérité, c'est ma neshama qui communique avec sa neshama et que ça peut jamais s'arrêter. Les corps qui communiquent avec les corps, ça s'est arrêté. Parce que son corps est parti, son corps s'est décomposé. Mais la neshama qui communique avec la neshama, ça reste. Maintenant, je vais expliquer avec ça pourquoi un tzaddik est particulièrement vivant plus qu'une autre personne. Quand une personne perd un parent, on dit aussi, le rabbin il dira que la personne est toujours vivante. Mais c'est pas aussi fort que le tzaddik. Pourquoi? Parce que la relation qu'on a avec un proche parent, c'est pas une relation qui est liée à la neshama, c'est une relation qui est liée d'abord et avant tout au corps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, un membre de ma famille. Donc, c'est un lien d'affection. Donc, c'est lié au corps.
Ça dépend.
Mais, en général, c'est un lien qui est lié au corps.
Enseigné. Son père, c'était un rave et qui lui enseignait.
J'ai compris. Mais en général, c'est un lien affectif. Donc, c'est un lien qui est lié au corps. D'accord? Mais quand tu vas voir un tzaddik, donc c'est pour ça que ce lien qui est lié avec le corps, il n'existe plus. Il est parti parce que la personne est morte. Mais quand tu vas voir un tzaddik, tu vas pas le voir pour un lien affectif. Tu vas le voir pour que ta neshama communique avec lui. Donc, s'il te dit, ça s'est jamais arrêté. Vous comprenez? Quand on communique avec une personne, il y a deux aspects. Il y a le fait que nos neshamas sont en train de communiquer, et il y a le fait que nos corps sont en train de communiquer. Il y a un lien affectif. En général, quand on discute avec les gens, avec la famille, avec les amis, c'est d'abord et avant tout le lien affectif. Ça, il s'en va quand on part. Parce que la personne meurt.
Alors, comment on peut...
Mais ce qui reste de seconde, c'est la communication entre deux neshamot. Mais ce qui t'explique, c'est très simple. Il te dit, regarde, quand tu es allé voir le tzaddik, tu es allé voir le tzaddik pourquoi? C'est pas pour que ton corps communique avec son corps. C'est pour que ta neshama communique avec sa neshama. Mais ça, on vient d'expliquer que ça, personne ne peut l'enlever. Et que ça, même si les deux sont morts, les deux continuent à communiquer. Même si un est vivant, l'autre est mort, les deux continuent à communiquer. Donc avec ça, il veut expliquer pourquoi un tzaddik, il est particulièrement vivant plus qu'une autre personne qui est décédée. Pourquoi? Parce que nous, on s'attache à un tzaddik parce que notre neshama communique avec sa neshama, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est pour ça qu'on fait une iloula d'un tzaddik et on ne fait pas une iloula d'une personne qui n'est pas tzaddik. Parce qu'une personne qui n'est pas tzaddik, on communique avec lui principalement avec son corps, on a un lien affectif. Ça, il est parti. Ça, c'est parti. Mais comme un tzaddik, le lien principal qu'on a avec lui, c'est un lien qui est d'abord et inventons un lien de la neshama, ça, personne ne pourra nous l'enlever. Voilà pourquoi on continue à fêter les iloulottes, on continue à communiquer avec le tzaddik. Allez-y.
Alors, quand tu as par exemple certaines personnes qui voient des tzaddiks dans leur rêve qui viennent leur parler, ça veut dire que c'est leur neshama qui parle en tzaddik.
Quand un tzaddik vient me parler, ça veut dire que c'est la neshama du tzaddik qui communique avec ma neshama. On n'a pas un lien affectif avec un tzaddik. On a un lien.
Est-ce que c'est pas juste penser le conscient, ça n'a pas de sens?
Est-ce que c'est quoi?
Est-ce que c'est pas juste penser le conscient et ça n'a pas de sens? Est-ce que ça a toujours un sens?
Je veux dire aussi.
C'est vrai?
Est-ce que ça a toujours un sens?
Est-ce que c'est toujours vrai, tu veux dire?
Est-ce que ça a toujours un sens?
C'est sûr que c'est toujours
un message.
Tu parles dans le rêve?
Oui.
Ah, d'accord. Est-ce que dans le rêve, il y a toujours un message? En général, on dit que quand on rêve d'un tzaddik, c'est que le tzaddik, il a pensé à nous à ce moment-là dans le ciel.
Mais non, on aura toujours.
C'est pas rien de rêver d'un tzaddik. Tu sais, chez Chassidim, quand on rêvait du rabbi, on faisait Fabringen le lendemain.
Ah
bon? Oui.
Ah, tu fais les bois, c'est pour ça.
Ah oui. Fabringen, ça veut dire qu'on se réunit. C'est pas rien.
Tu fais là actuellement. Ah.
Non, c'est pas rien.
Non, j'ai pas le contraire. Mais
au Maroc, quand il y avait des gens qui voyaient, ils allaient, ils disaient une séouda.
Des fois oui, des fois non.
Ils avaient parlé de toi dans le ciel.
C'est pour ça.
Des fois, par exemple, tu rêves du tzaddik, tu le vois sourire. Ou tu le vois, il te fait la tête. Tu sais pas pourquoi. Tu te réveilles avec un sale sentiment ou un très bon sentiment.
Ouais.
Oui. Une autre question?
Alors si tu parles en plus.
Mais on aura toujours de l'affection pour un tzaddik.
Oui, mais c'est pas une affection physique. C'est une affection spirituelle.
Spirituelle. Ouais.
C'est pas on peut pas dire que c'est comme un ami ou comme un membre de la famille. Ouais. C'est une affection physique.
C'est pas palpable. Si c'est palpable.
Parce que c'est toujours le contraire.
Tu le ressens, mais c'est pas palpable. Tu peux pas le toucher, tu peux pas le prendre comme de l'eau.
On voit bien que quand même avec le groupe.
Il a donné le numéro du logo.
Il y a quand même même bien. C'est différent que quand il est pas là. On voit bien que physique quand il est plus là physiquement, c'est pas pareil quand il est plus là physiquement, parce que la preuve. Il a bien fait cette lettre parce qu'ils étaient vraiment peinés. Donc on voit bien qu'ils étaient physiquement quand ils étaient là, ils avaient plus de force que quand ils n'avaient pas physiquement.
Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en vérité, le plus dur, bonsoir, en vérité, le plus dur du boulot, c'est de se convaincre dans la tête que c'est comme ça. Très compliqué. Parce que nous sommes concrètement, nous sommes des âmes en chair et en os. On a besoin de communiquer. Ça veut dire quand quelqu'un il me dit je t'aime, quand quelqu'un il me dit qu'il m'aime, mais concrètement je le sens pas avec mes cinq sens, c'est très compliqué à l'aimer. On a besoin de communiquer avec un maximum de sens. C'est comme ça. Or, quand on parle avec un tzaddik, quand on est dans une iloula, quand on parle avec un tzaddik, il y a zéro sens qui communique avec le tzaddik. Tu comprends? Il y a aucun sens qui, c'est pas la vue, c'est pas lui, c'est rien de tout ça. C'est la neshama qui communique avec le tzaddik. Donc c'est très compliqué.
Non, mais le problème, c'est que ça va avoir une influence. C'est pas un problème. On sait qu'il y a une influence sur l'essence à ce moment-là.
Oui. Mais il faut y croire. Comme il a dit, ça veut dire qu'après, à un certain moment, le Yitzhara, il peut t'attaquer très facilement. On y va. Alors.
C'est rien, il a dit Shmuel.
C'est, pardon?
Ouais, il a dit les rêves sont rien.
C'est vrai que l'autre.
Ça dépend. Ça dépend que le rêve.
Comme ça, il dit. Marat.
Marat pose la question.
Il dit, c'est rien.
Non, non, c'est pas rien.
Il a dit, c'est toi qui t'es construit.
Il a dit ça. Il a dit, les rêves suivent la bouche. Rêves suivent l'interprétation.
Tu connais pas cette blague, là?
Ok.
Il y a un bonhomme qui rentre dans une chambre, dans une femme qui est en train de dormir. Et dans son rêve, elle le regarde et dit, vous êtes rentré dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Et lui, il dit, mais c'est vous qui rêvez.
Tant que temps.
Alors. Donc il dit comme ça. Alors on reprend dans les mots.
C'est toi qui fais ce que tu fais avec tes rêves. Tu peux les polluer comme tu peux les rendre merveilleux.
Donc, on y va.
Rien à voir avec tes rêves.
Bah si, tu rêves, c'est toi qui le fabrique. Alors tu n'as qu'à penser au rabbi toute ta
vie. Mais Fabringen, c'est pas des rêves.
Tu rêveras du rabbi,
c'est tout. Fabringen, tu
fais. Donc, allez, rabotin, continue. Alors, on s'est arrêté à Peoulat Tzadik le Chaim, donc c'est, vous avez dans les mots, là, qui c'est qui suit dans les mots? La ligne qui commence par Tzadik le Chaim. Vous voyez, Tzadik le Chaim.
Encore? Tu reprends là?
Ils ont pas percuté encore. Tzadik le Chaim.
Ah oui, Tzadik, oui, je
vois. Dixième ligne.
On a fait ça déjà?
Ouais, ça, dixième ligne.
Vous voulez leur expliquer?
Dixième ligne.
Non, tzadik le chaim.
Mais si, avec le
Peulat tzadik le chaim.
Frabangen, chaim.
Donc, peulat tzadik le chaim. Que ça, c'est l'action d'un tzadik le chaim pour la vie. C'est quoi la vraie vie d'un tzadik? Le chol chai, inefesh kol chai, akshura ben nafsho bechavle avotot ahavar abba ve'avat olam batimot la netzach. Que entre le tzadik, entre le rabbi et les chassidim, il y a un lien qu'on appelle ahavar abba, c'est-à-dire c'est un grand amour, et ahavat olam, c'est un amour éternel. Baltimot la netzach, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui ne dépend pas du corps. Si c'est un amour physique peut partir, peut s'estomper avec le temps. Mais l'amour qu'il y a entre un tzadik, entre un rabbi et des chassidim, c'est un amour qui est inconditionnel. Asher miya ish chafetz chaim, le dovka b'Hashem chaim, b'avolatut idbak tafsho, v'aita tzchura b'tzchor ha-chaim et Hashem b'chai roach apenu, asher amarnu b'tzilo nichi el agoyim, asher shavak lanu, je vais rappeler ce que je l'ai fait à l'oral ça, asher shavak lanu b'chol echad v'echad, kefi prinat itkashrutu b'emet, v'ahavato ahavat emet ateora, mikerav ish v'levamo, ki kemaim apanim gomer. Voilà. Ça, c'est un autre point que l'Admor HaZaken rajoute, nouveau point que j'ai pas encore développé. Il y a un verset dans Michelet qui dit Kemaim apanim lapanim ken lev adam la adam. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre dans les prochaines lignes, c'est quelle est la profondeur de la relation qu'il y a entre un tzaddik, entre un rabbi, et des chassidim, du vivant du tzaddik. On va simplifier les choses. D'accord? Il y a un verset dans Michelet qui dit comme ça, qui dit Kemaim apanim lapanim. Il dit de la même manière que l'eau reflète le visage au visage, Ken lev adam la adam, de la même manière, le cœur de l'homme est reflété par un autre cœur. J'explique ce qu'il veut dire. Quand on va devant un cours d'eau, et que vous regardez, et que vous voyez le cours d'eau, qu'est-ce que vous voyez dans le cours d'eau?
Une mare.
D'accord? Vous voyez votre visage. Donc, le visage, donc, ce visage-là, reflète votre visage. Si tu fais une grimace, qu'est-ce que tu verras dans le cours d'eau? Une grimace. Tu fais un sourire, qu'est-ce que tu verras? Un sourire. C'est un miroir, en vérité. D'accord, c'est le miroir de l'époque. Alors, bâton prochain, c'est la même chose. Shlomo HaMelech, il dit c'est la même chose. Il dit Ken lev Adam la Adam. Il dit c'est la même chose quand on veut comprendre les relations, d'accord, interhumaines. C'est la même chose. Que quand je fais un sourire à quelqu'un, quand je suis souriant avec quelqu'un, il est obligé de me sourire, même s'il me fait la tête. Quand tu lui souris, imagine-toi, quelqu'un qui est là, il est chez neuf, il te fait la tête. Et toi, tu viens grand sourire, blata. D'accord? Blata. Il est obligé de te sourire. Il sera obligé de te sourire. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, c'est comme un miroir. Donc si tu lui fais un sourire, il sera obligé de te rendre le sourire. D'un autre côté, quand tu es là, tu es méchénef, même si l'autre est tout, d'accord, et même si l'autre est tout content et bessimra, eh ben tu communes et tu le rends angoissé. C'est comme ça. Donc ça c'est ce que Shlomo HaMelech a dit. Quel rapport avec le tzadikim maintenant? Ben il dit c'est exactement la même chose quand on veut comprendre la relation qui est entre un tzadik et entre un rabbi et des chassidim. C'est que plus le chassid est attaché au rabbi et plus le rabbi peut élever le chassid. Je vais illustrer ça avec une histoire. Il y a une personne, quelqu'un qui habitait à Paris, qui est niftar d'ailleurs, ça fait 3 ans. Et quand il s'était approché du mouvement Chabad, donc il était parti chez le rabbi, et il avait posé plusieurs questions au rabbi, je racontais une fois. Et une des questions qu'il a posées au rabbi, il a dit, dans toutes les maisons Lubavitch où je suis parti, j'ai vu une photo du rabbi, pourquoi? Et il demande ça maintenant au rabbi. Ça, c'est la première question qu'il a posée. Il a posé plein de questions. Une autre question qu'il a posée au rabbi, il a dit, je remarque que les chassidim, ils parlent d'amour envers le rabbi. Mais je comprends pas quel rapport entre l'amour et un rabbi. Qu'ils me disent qu'ils suivent les enseignements, qu'ils écoutent, qu'ils répètent les divrei Torah. Mais quel rapport entre un rabbi et de l'amour? Alors le rabbi, il a répondu comme ça. Il a dit, pour la photo, parce qu'il avait dit, j'ai vu dans tous les salons une grande photo. Alors, le rabbin, en plaisantant, il a répondu, il a dit, pour la photo, c'est pas obligé d'être une grande photo, une petite photo, ça marche aussi. En rigolant, il a dit ça. Maintenant, il a dit, plus sérieusement, il a dit pour la deuxième question, il a dit, la raison pour laquelle les chassidim ont un amour très fort envers moi, c'est parce que moi, j'ai un amour très fort envers eux. Et que quand tu aimes quelqu'un très fort, obligatoirement, il te renvoie cet amour. Il dit, j'ai un amour inconditionnel envers les chassidim. J'ai un amour inconditionnel envers n'importe quel juif. Et c'est ce qu'il dit ici. Kemaim apanim apanim ken lev adam la adam. C'est quoi la relation qu'il y a? C'est quoi le leg? Pour comprendre le leg que le tzaddik nous laisse, il faut comprendre comment le tzaddik a vécu. Comment le tzaddik a vécu, il faut comprendre quelle était la relation qu'il y avait avec nous. La relation qu'il y avait avec nous, c'est qu'un tzaddik se lie d'amitié. Un tzaddik est généreux, comme il a dit tout à l'heure. Un tzaddik se lie d'amitié, il est lié profondément avec ses chassidim. Il les aime, il leur montre qu'il les aime, et c'est pour ça que les chassidim, eux aussi, ils aiment leur rabbi. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Ils lui rendent ça. Parce que le tzaddik, il montre qu'il les aime. C'est quoi quelqu'un qui t'aime? C'est pas quelqu'un qui a envie de te, c'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir ses propres désirs. Parce que quand on dit, par exemple, un homme, il va dire, j'aime quelqu'un, il aime sa femme. Est-ce qu'il aime vraiment sa femme? Peut-être qu'il s'aime à soi, il a envie de kiffer. Le tzaddik, il aime vraiment quelqu'un, ça veut dire quoi qu'il aime vraiment quelqu'un? C'est-à-dire que le tzaddik, il nous aime, il veut notre bien. Et comme le tzaddik, il nous aime profondément, notre neshama, elle ressent ça. Notre neshama, elle ressent quand quelqu'un, il veut ton bien, quand quelqu'un, il t'aime profondément. Et automatiquement, tu le rends ça. Tu es content. Tu es content, tu sens qu'il veut ton bien, alors toi aussi tu as envie de lui rendre ça comme tu peux. Ça c'est la relation qu'il y a entre un rabbi et des chassidim. Et bien ce que dit l'Admor HaZaken, c'est que cette relation d'amour, cette relation de proximité entre le rabbi et les chassidim ne part jamais. Et ça peut vous choquer, mais ça peut rester même quand le tzaddik est niftar. C'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, même aujourd'hui, vous verrez toujours que les chassidim, ne soyez pas choqués si dans un fabricant, une fois vous entendez, des chassidim qui vous disent qu'on aime le rabbi. Mais attends, mais c'est un tzaddik qui est niftar il y a plus de 20 ans, pratiquement. Pourquoi tu dis on aime? Parce que c'est ce qu'on a rien expliqué ici, c'est qu'on parle pas d'un amour physique. On parle d'un amour de la neshama qui est un amour très profond. Que tu sens qu'il y a une neshama qui veut que ton bien, qui veut te faire avancer dans la vie. Donc toi aussi, sur quelqu'un qui veut que ton bien, automatiquement, toi aussi tu rends ça que t'as envie de montrer, que toi aussi tu montres que t'as une grande affection vers cette personne-là. Je suis conscient que c'est une notion qui est un peu abstraite pour l'instant, c'est pour ça qu'on l'a développée encore dans les mots.
Regarde, les Avdil ben et l'Avdalot. Quelqu'un va te dire au jour d'aujourd'hui, ah moi j'aime Louis de Funès, je me la kiffe quand je vois Rabbi Jacob. Il aime pas
Louis de Funès.
Il est mort.
Attends.
Il dit pas je l'aimais, il aime toujours.
Il aime pas Louis de Funès. Il s'aime. Donc comme il a envie de kiffer, il va regarder Lutte Finesse.
Oui, mais qui lui dit que c'est pas, il a pas envie de kiffer intellectuellement?
Mais Lutte Finesse, il en a rien à faire de moi, il connaît même pas mon nom. Et s'il connaissait mon nom, il m'aurait craché dessus.
Qui nous dit qu'on n'a pas envie de se
kiffer? Il m'aurait tiré la langue.
Attends, qui nous dit qu'on n'a pas envie de...
Il m'aurait tiré la langue, il m'en fait comme ça.
Qui nous dit qu'il a pas envie de se kiffer le tzaddik?
De quoi?
Quelqu'un qui t'a dit j'aime le rabbi aujourd'hui.
Parce que ça, la neshama, elle le sent. Hein?
Encore
pivert. Hein?
Pivert.
Encore
pivert.
Pivert.
Hein?
Pivert.
Encore ce pivert.
Il en a rien à faire de moi. Vous, peut-être vous en avez à faire de lui, on en a rien à faire de vous. Vous pouvez pas l'aimer. Ça, la neshama, elle le sent. Tu sens quand quelqu'un vraiment il veut ton bien. Vous me suivez?
Bien sûr.
D'accord.
C'est leur choix. Ils peuvent, d'ailleurs, je demande si c'est leur choix.
De quoi?
Ils peuvent pas faire autrement. Le tzaddik, il peut pas décider, je les aime plus.
Il est
coincé.
C'est lui, Macron.
Si, il est coincé.
Il est comme ça. Okay.
Non. Il est coincé. C'est un fil qui est actionné de haut, là-bas. Il est coincé.
Bien sûr.
C'est lui, Macron.
Bon, je reprends. Parce qu'on n'a pas encore répondu à la question de Marcel. Hein, Marcel? On n'a pas encore répondu à ta question.
Il n'a pas le choix.
Un petit peu, quand même.
Il a été choisi.
La Eloula, c'est quoi la Eloula?
Il n'a pas le choix.
On s'approche.
Il est, c'est la DV, il est collé.
Allez, rabote. On continue. Donc, qui est maïm apanim gomer. Ça veut dire que comment ça se fait qu'un chassid peut avoir un amour sans limite envers son rabbi, parce que son rabbi a un amour sans limite envers lui. Le Zohar il dit comme ça. Le Zohar il dit l'esprit inspire l'esprit. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire que quand tu es angoissé, tu inspires l'angoisse autour de toi. Quand tu es amoureux, tu inspires l'amour. C'est comme ça. D'accord? Donc quand tu as quelqu'un qui veut réellement ton bien, tu sens ça. Et tu te dis, j'ai envie de lui rendre ça. D'accord? J'ai envie de m'approcher de cette personne-là.
C'est une technique de communication. Sérieusement, le miroir.
On dit qu'une des plus grandes techniques de communication, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire se mettre dans la tête de l'autre et vouloir son bien, pas vouloir mon bien. Parce que l'autre, tu sens tout de suite quand quelqu'un il veut son bien ou quand quelqu'un il veut ton bien.
L'effet miroir que tu évoques.
Oui.
C'est le cas.
Par exemple, un bon commercial, il va te parler de choses.
Mais un bon commercial, il n'est pas sincère à 100%.
Pour calmer.
Il veut ton bien, mais.
Oui.
Il veut d'abord le
fait. L'effet.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'accord.
Tu répètes ce que tu dis autrement, plus calmement, et donc la personne elle-même se calme.
J'ai compris. Ouais, c'est vrai. Donc, Verouar aïti rouar, verouro omedet bekirbe noumamash. Et donc là maintenant, rappelez-vous, l'Admor HaZaken veut consoler les chassidim. Il leur dit, sachez que l'esprit de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, omedet bekirbe noumamash, elle se trouve parmi nous, mamash, ça n'a pas changé. N'oubliez pas, la relation qu'on avait avec lui, c'était pas une relation physique, c'était une relation avant tout de la Neshama. On sentait que notre Neshama était proche de lui, et on sentait que sa Neshama était proche de la nôtre. Il dit, sachez que ça n'a pas changé d'un iota. Son esprit est toujours parmi nous. Qui? Bir Oto Yeladav. On va juste terminer le paragraphe, on va terminer la logique. Kibir Oto Yeladav Maase Yadav Bekirbo. Quand le tzadik il voit ses enfants, c'est quoi les enfants du tzadik? C'est quoi les enfants? C'est nous. Pourquoi nous sommes ses enfants? Parce que c'est quoi un enfant? C'est quelqu'un que tu as éduqué. D'accord? C'est quelqu'un que tu as façonné. C'est quelqu'un que tu as créé.
Produit.
D'accord? Donc le tzadik il nous a façonné. Ça veut dire que c'est lui qui nous a créé nos... Surtout, c'est pour ça. Exactement. Exactement. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, ce que je vais expliquer ici, c'est que la relation qu'on a avec un tzaddik est beaucoup plus forte si c'est un tzaddik qu'on a connu. Ou au moins si c'est un tzaddik qu'on étudie ses enseignements. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on sent qu'on est quelque part son fils. Parce qu'on apprend ses enseignements. Mais c'est le legs. Ça change pas que même si on n'a pas appris l'enseignement du tzaddik, quand on va à son kever, il y a quand même l'aneshama qui communique avec l'aneshama. Mais c'est beaucoup plus difficile à le ressentir. Alors que quand tu as étudié ses enseignements, tu te sens le fils de cette personne-là. Donc tu dis ça n'a pas changé. Je suis son fils. Maase Yadav Bekirbo. Il y a dix choses chez moi de Asher id gadal vid kadash kasher neler beder rishara. Asher oreinu midrachav ve me nelcha beorotav netzer selaved. Il dit comme ça. Il dit que qu'est-ce que le tzaddik attend de nous? Le tzaddik attend de nous de voir que ici-bas on suit son derer. Le tzaddik c'est quelqu'un qui avait un derer, qui avait une voie, qui avait une manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Chaque tzaddik a sa particularité comment il sert à Kadosh Baruch Hu. Et quand il voit qu'il a ses chassidim ici-bas, qu'il l'est connu ou l'est pas connu, c'est encore mieux s'ils l'ont connu, mais qu'il voit qu'il suit son derer, alors le tzaddik, quand il voit le tzaddik et ses enfants qui le suivent, le tzaddik il a un amour inconditionnel envers ces gens-là. Et cet amour-là automatiquement ça va dans les deux sens. Maintenant, regardez bien où je veux en arriver. Et là, on va répondre à la question tout à l'heure.
Même plus, ses petits-enfants, parce qu'il n'a pas connu, il continue.
Même plus, explique-moi ce que tu veux dire.
Deuxième génération.
Oui, parce que malgré qu'ils ne l'ont pas vu, il continue encore sa...
En vérité, c'est ad vitam aeternam.
Donc, il a encore... Il ne m'a pas connu, et encore il m'aime, donc j'aimerais plus cette personne-là.
Par exemple, aujourd'hui, nous étudions un enseignement du Admor HaZaken, d'accord, qui a repris un enseignement du Magid de Meserich, qui a repris un enseignement du Baal Shem Tov. D'accord? Donc, sans le savoir, on est maintenant des élèves du Admor HaZaken, du Baal Shem Tov, du Magid Meserich. On est leurs élèves. Pourquoi on est leurs élèves? On est leurs enfants. Parce que c'est quoi un enfant? C'est quelque part une façon spirituellement. Notre Neshama communique avec leur Neshama. C'est clair. C'est ce qu'il va expliquer plus tard. C'est que dans la Ishtatrut, ça veut dire quand on pèlerine, c'est écrit qu'il y a plusieurs niveaux. T'as de manière générale pèleriné chez un tzaddik, pèleriné chez un proche. Pèleriner chez un tzaddik que tu as étudié son enseignement, et pèleriner chez un tzaddik que tu as étudié son enseignement et que tu l'as connu personnellement. Plus tu avances, plus c'est puissant, c'est normal ça. C'est-à-dire que c'est clair que quand c'est quelqu'un que tu as connu, ta neshama a beaucoup plus de facilité à s'imaginer. Tu sens une proximité. C'est-à-dire que la proximité, tu n'as pas besoin de la générer, elle est déjà là. Tu comprends?
D'ailleurs, on se demande s'il faut vraiment aller à côté du Gver ou comme ils font les Breslaveurs, ils voient des doutes et puis ils s'enferment, ils sont avec leur rabbi.
Ils vont chez le Gver.
Oui. Mais est-ce que c'est vraiment
bien sûr.
Un truc très, très...
C'est très important d'aller au Gver. On expliquera ça plus tard. C'est très important d'aller au Gver parce qu'on dit que quand on va au Gver, dans notre Neshama, il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est le 5e niveau de la Neshama, le niveau le plus élevé, celui qui se développe le jour du Yom Kippour. Et on dit que quand on va au kever d'un tzaddik, la yechida de notre neshama, donc le niveau le plus élevé de notre neshama, communique avec la yechida de la neshama du tzaddik. Et c'est pour ça qu'on sent une puissance, on sent quelque chose. Seulement, il faut se préparer avant. C'est-à-dire que quand on va au kever d'un tzaddik à sec, c'est-à-dire sans se préparer à l'avance, d'accord, on peut passer à côté. On peut passer à côté. Parce que c'est quoi le problème? C'est que comme nos sens physiques ne sont pas concernés, ils voient pas le tzaddik, tu entends pas le tzaddik, tu parles pas avec le tzaddik. Donc du coup, si ton corps ne s'est pas préparé au fait que on va vivre un moment spirituel, tu prépares pas ton corps au fait que maintenant il faudra écouter la Neshama, il faudra laisser la Neshama parler. Si ton corps n'est pas préparé à ça, tu peux passer à côté. Il faut préparer le corps que arrivé un moment, il faudra laisser la Neshama parler. Et là, ça va marcher.
En plongée, il y a les décompressions.
Oui, il faut se préparer à ça. Se préparer à ça qu'à un moment, il faudra laisser la Neshama parler. Et quand on se prépare, là, ça va marcher.
Échauffement.
Ok. Donc, maintenant, Vezehu Shekatou. Alors, j'ai accéléré un petit peu, hein, ça parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on a déjà vus. Alors vous avez la. Eh oui, vous pouvez aller faire votre page.
On continue.
Vas-y, avant qu'on continue.
Toujours 91 ans.
C'est d'accord avec moi que.
Je suis juste une seconde pour qu'ils prennent la ligne. Je suis à 7 lignes avant la fin maintenant. Vais ça. À la ligne qui commence par Midrachav.
C'est d'accord avec moi que. En arrivant, suite à tous les. La peine ou tout ce qu'il a subi. Pas physiquement, mais spirituellement, ça l'a affaibli.
Le tzaddik,
et il est mort comme ça. Donc, on voit bien que il faisait une, physiquement, il prenait une partie sur son physique. Et cette partie-là, elle n'y est plus.
Physiquement, il prenait une partie de nos fautes, tu veux dire.
Voilà. Et cette partie, elle n'y est plus. C'est pas nous. C'est nous, malheureusement, on dit, ah, mais on sait qu'on est passé de nous.
Moi, je retourne la question.
Il nous soulageait sur ça.
Je retourne la question. En quoi c'est un tzaddik pour toi? Pourquoi cette personne-là, qui est un homme en chair et en os, en quoi il est tzaddik? Qu'est-ce qui fait qu'il est tzaddik? Pour toi?
La pub.
C'est pour ça on dit.
Réponds à ma question, sérieusement. Tu es allé voir le tzaddik, voilà. T'es déjà parti à New York, t'as déjà vu le rabbi? D'accord. Alors, réponds-moi à ma question. Qu'est-ce qui fait que le tzaddik est un tzaddik? C'est son corps? C'est son chapeau?
Non, c'est ce qui.
Son visage?
C'est ce qui reflète,
ce qui dégage.
Donc c'est quoi?
C'est
ce qui dégage, c'est la neshama. Ça, ça bouge pas.
On voyait bien, sans truc.
Tu comprends? Un tzaddik, c'est pas une star. Une star, qu'est-ce qui fait qu'il est une star? Je sais pas, c'est qu'il est beau, c'est qu'il joue bien. Le jour où il joue mal, c'est plus une star. On est d'accord?
Je suis d'accord.
Un tzaddik, c'est pas une star. Un tzaddik, c'est quelqu'un que tu t'attaches avec lui parce qu'il dégage une énergie. Et cette énergie qu'il dégage, elle bouge pas, elle s'en va jamais.
Elle passait à travers son corps.
C'est ce que je dis. Ça veut dire
donc, que tu vois bien qu'il y a bien quelque chose qu'il faut quelque chose ici pour pouvoir.
Non, c'est pas. Alors, ce qu'il va expliquer, il va expliquer qu'en vérité, c'est exactement le contraire. Il dit que avant que le tzaddik, vous entendez la question qu'il pose, il dit mais avant concrètement, le tzaddik, son énergie s'exprimait au travers de son corps, et maintenant elle s'exprime au travers de son corps. Ce que la Gemara Zaken va expliquer ici dans cette lettre, qu'on a déjà fait l'année dernière, mais là c'est une introduction à la lettre 28, c'est que en vérité, non seulement que c'est pas moins qu'avant, mais c'est encore mieux qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, avant son départ, le tzaddik était bridé par son corps. Parce qu'on a expliqué que c'est quoi, qu'est-ce qui fait que, écoutez bien ce qu'on va dire là, qu'est-ce qui fait que le tzaddik est un tzaddik? C'est sa neshama. C'est le fait qu'il y a une énergie extraordinaire dans le tzaddik. On le sent, ça. Notre neshama le ressent, ça. D'accord. Mais cette neshama, cette énergie qui est dans sa neshama, même chez le tzaddik, quand le tzaddik est vivant, elle est bridée, cette énergie. Parce qu'il a un corps. Et des heures où il doit dormir. Et des heures où il doit manger. Et des heures où il est fatigué. Et des heures où il peut pas accueillir.
D'accord? Le corps lui fait des limites à la
Donc le corps lui fait des limites. Ça veut dire que, moi, je vais voir le tzaddik, pas pour son corps. Pour l'énergie que sa neshama dégage. Mais cette énergie est limitée. Elle est bridée. Elle est bridée à cause du corps. Imagine-toi maintenant, que lorsque le tzaddik, le corps du tzaddik part de ce monde, l'énergie de la neshama est toujours là et elle est débridée. Elle peut délivrer toute sa puissance sans qu'elle soit bridée par quoi que ce soit. Sans qu'elle soit limitée par le temps, par l'espace. Ça veut dire, avant, quand tu allais voir le tzaddik pouvait pas accueillir 10 personnes en même temps. Il peut accueillir une personne à la fois. Et il est bridé. Imagine-toi que maintenant, le tzaddik est débridé. Donc, non seulement que c'est comme avant, c'est encore mieux qu'avant. Mais, je conçois que c'est compliqué. C'est compliqué.
Ça frôle pas un peu le kibbutz harim, ça?
Razvé shalom.
Non, ça frôle pas, j'ai dit. Razvé shalom. Parce que les gens, ils vont diviniser un peu.
Non, Razvé shalom.
On dira, attends, il peut parler à 50 personnes, il peut recevoir 50 en même temps, il peut ça, il peut.
Non, c'est que, il faut simplement comprendre qu'on parle plus du corps. On parle de la neshama. C'est ma neshama qui communique avec la neshama du tzaddik. Le ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est clair, je suis d'accord, je l'admets à 100%. Le message est moins clair, c'est beaucoup plus difficile à vivre, beaucoup plus difficile à ressentir. On a expliqué au début du cours, on a dit que comme on est des hommes en chair et en os, on a besoin de vivre une expérience. Et donc, il faut faire participer un maximum de sens. Or, les sens ne participent pas, là. On voit pas, on n'entend pas, on touche pas, on sent pas, on y a rien, quoi.
Oui, mais le fait d'aller à une île ou là, quand tu parles de se préparer,
oui.
C'est une chose, et une fois sur place, je pense qu'il y a quelque chose que tu arrives à ressentir.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Tu te sens mieux.
C'est que comme tu t'es préparé qu'à un certain moment, il faudra laisser ton échama parler. C'est comme, je vais te donner un exemple. Imagine-toi que le jour de Kippour, c'est demain. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à le vivre? Moi, je pense que la réponse est clairement non. C'est pas que le jour de Kippour sera Kadosh, mais on aura beaucoup de mal à le vivre. Pourquoi? Parce que on a eu 40 jours de préparation avant Kippour. 40 jours dans lesquels on nous a habitués que le plus important c'est la Neshama et la Teshuva. Donc on nous a habitués à laisser parler la Neshama, à laisser la Neshama s'exprimer. Donc automatiquement, quand arrive le jour de Kippour, le corps est prêt à laisser parler la Neshama. Mais si tu viens, tu nous balances directement un jour de Kippour, alors bien sûr que tu vas ressentir quelque chose à ce moment-là, mais après ça passe, on ne le sent pas. Pourquoi ? Parce que ton corps n'est pas prêt à ça. C'est la même chose. D'accord ? T'as compris ? C'est comme la Ferrari, tu la mets direct sur le terrain sans les chauffer comme ça.
C'est vrai que c'est le rail. Non, il faut laisser le moteur chauffer un peu.
On peut pas, c'est pas possible.
Même les pneus.
Et si les pneus ils sont froids, le moteur il est froid, tout est froid, on peut rien faire.
Chauffer les pneus, ouais, d'abord.
Il faut entraîner le chauffeur surtout. Le pilote,
d'ailleurs, c'est pas départ arrêté. Je vais t'en marquer. Les grandes courses sont en question.
Alors on y va.
Départ arrêté. On démarre. Ah, mon rouge.
Et en plus de ça, ils font des tours.
Dis maintenant.
Chauffer le moteur d'abord.
Mais Zeus, bon, on va quitter les voitures, on va retourner à la Torah.
Formule 1 démarre avec l'air comprimé.
Ah, c'était pour l'exemple.
Mais tu risques, voilà.
Un
exemple qui te parle.
Ça me fait de la peine. Zeus, donc je suis maintenant à la 7e ligne avant la fin. Des tzadika, elle termine par des tzadika à la ligne. Des tzadika, avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Et ça, c'est la réponse à ta question, Michael. Des tzadiks à des itpatars, qu'un tzadik qui quitte ce monde. Vous remarquez que le Zohar n'emploie pas le terme quitter. Il emploie le terme itpatar. Itpatar, ça veut dire qu'il nous dit au revoir. Qui est toujours là, ça veut dire. Ishtakar bekulu almin yatir ribechayoin. Une phrase très célèbre du Zohar, dans le volume 3 du Zohar. Zohar, il dit comme ça. Il dit qu'un tzadik qui quitte ce monde, il se trouve dans tous les mondes plus qu'avant. Il y a une contradiction dans les mots que je viens de dire. Tu viens de dire un tzadik qui quitte ce monde, il est présent dans tous les mondes plus qu'avant. Mais tu viens de me dire qu'il a quitté le monde. Comment comprendre ce paradoxe? On est d'accord, il y a un problème. Tu me dis, un tzadik qui quitte ce monde, il est présent dans tous les mondes plus qu'avant. Tu viens de me dire qu'il a quitté. S'il a quitté, il n'est pas présent. La réponse est très simple. Daïnou, ça veut dire, Shegam beze aolam amaase. Même dans notre monde, le monde de l'action, ayom la sotam, même dans notre monde qui est un monde physique, que normalement dans notre monde, si je sens pas quelque chose, a priori, je ne l'ai pas. Même dans notre monde, ki amaase gadel veoler gidulet gidulin min or zaruel atzadik besadei asher berecho Hashem ameir laaretz vechutzot vegam anachnu elepo ayom kulanu chayim midrachav derech kadosh yikarala. J'explique ce qu'il dit ici. Il dit c'est très simple. Alors là, il dit quelque chose de très puissant. Il dit, pour se sentir relié à un tzaddik, t'es obligé de lier ça à un acte matériel. Pourquoi ? Parce que ici, on vit dans le monde de l'action. Puisqu'on vit dans le monde de l'action, pour que la neshama ressente ce qu'elle est liée avec le tzaddik, bien qu'en vérité c'est une histoire de neshama, c'est ma neshama qui communique avec la neshama du tzaddik, et pour que je le ressente, il faut que ça ait une implication dans le gouf, dans le corps. Pourquoi ? Parce que c'est écrit Hayom la Asotam. Hayom, aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde-ci, la Asotam, il faut toujours qu'il y ait une application matérielle, une application physique. C'est quoi l'application physique ? C'est très simple. C'est quand, par exemple, je vais suivre l'enseignement du tzaddik. Et que suite à l'enseignement du tzaddik, je vais améliorer mon comportement. Là, on peut dire qu'il y a eu une application physique. C'est que ma vie a changé, une application pratique. Ma vie, pratiquement et physiquement, a changé. Après, quand tu vas voir le tzadik, c'est plus seulement une histoire de neshamot. C'est une histoire de neshamot, mais j'arrive à le ressentir. Pourquoi ? Parce que il y a une application pratique. C'est pour ça que chez Chassidim, on dit toujours, quand on va voir un tzadik, quand on demande une bracha à un tzadik, il faut toujours prendre une bonne résolution sur soi. Par exemple, je vais demander une bracha à un tzadik pour un mariage, pour je sais pas, pour la parnassa, etc. Il faut toujours prendre sur soi une bonne résolution, de dire voilà, je demande une bracha, mais je prends sur moi de m'améliorer, par exemple, dans Netilat Yadayim, de mettre les titis tous les jours. Je sais pas ce que je peux prendre sur moi. Alors, la question est que beaucoup de posent, ils disent mais attends, c'est quoi ? C'est du chantage, du style.
Non.
Si voilà, bon, donnant quoi. Je te donne, tu me donnes. Non, c'est très simple. C'est que pour que ça marche. Quand tu parles au tzaddik, c'est un neshama qui est en train de communiquer avec lui. Mais comme on vit dans un monde dans lequel on a besoin d'applications pratiques et physiques, donc il faut montrer au tzaddik que la relation que tu as avec lui n'est pas qu'une relation spirituelle. C'est une relation aussi pratique. Tu dis voilà, suite à mon attachement avec toi, je vais rajouter telle et telle mitzvah. Je vais m'améliorer dans telle et telle mitzvah. Donc il y a une application pratique. Dès qu'il y a une application pratique, tu arrives à le ressentir. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Vous avez remarqué par exemple que Simchat Torah, on va danser avec la Torah. Pourquoi on va danser avec la Torah ? Pourquoi on a même besoin de chanter ?
Parce que ça semble Simcha, la Torah.
Pourquoi la Simcha de la Torah peut pas être juste dans la tête ? Imagine-toi, on est là, tous. Imagine-toi la scène. Simchat Torah dans le calme, silencieux, c'est dans la tête. Tous silencieux, tous grands sourires. D'accord ? Tous autour de la table. C'est la même chose. Après, on a besoin de danser, après, on a besoin d'être Bessimcha, après, on a besoin de chanter. Parce que, ce qui t'explique, l'Admora Zaken, une idée très puissante, il te dit que, pour que la Neshama ressente quelque chose, il faut qu'il y ait une application pratique. Une application physique. C'est pour ça que la Simcha, si tu veux la ressentir, il faut qu'elle s'exprime physiquement. Donc, il faut que tu chantes, il faut que tu danses. Et plus elle s'exprime physiquement, et plus la Neshama, elle s'exprime, la Neshama, elle parle, la Neshama, elle se développe. D'accord? À l'époque, quand on voyait le tzaddik, c'était facile. Parce que le tzaddik faisait le boulot à notre place. On le voyait, donc tout le travail physique, c'est lui qui le faisait. Mais maintenant qu'on voit plus le tzaddik, maintenant tout le côté physique, c'est nous qui devons le faire. Avant, quand on allait voir le tzaddik nous encourageait, il nous donnait des brachot, etc. C'est tout l'aspect physique qui est obligatoire, c'est une condition sine qua non. Il faut un aspect physique, sinon ça marche pas. Parce que les neshamot ne peuvent pas communiquer s'il n'y a pas un aspect physique, parce qu'on est dans le monde de l'action. À l'époque, c'est le tzaddik qui faisait le travail. Maintenant qu'on est dans un, maintenant que malheureusement le tzaddik, on voit plus son corps, donc l'aspect physique de la relation, c'est nous qui devons le faire. Rakshner. L'aspect physique de la relation, c'est nous qui devons le faire. Comment on fait l'aspect physique de cette relation? Quand on montre au tzaddik qu'on s'attache et qu'on rajoute dans l'action. C'est très simple. D'accord? Voilà pourquoi c'est très important de prendre des bonnes résolutions. Toujours quand on s'attache à un tzaddik, on prend sur soi des bonnes résolutions. Alors, je termine juste quelques lignes dans les mots, on va s'arrêter là parce que c'est déjà l'heure. Donc. Ameir la aretz rutzot ve gam el anachnu elepo hayom kulanu chayim midrachav derach kodesh kala, ça on a dit, d'accord? Zot ba'avodat Hashem bemilé d'Ishmaïa. Donc il est évident que nous continuons le chemin du Rabbi bemilé d'Ishmaïa dans toutes les choses spirituelles. Ou bemilé des alma, et il te dit pas seulement ça. Il y a des gens qui pensent qu'un tzaddik peut nous inspirer spirituellement une fois qu'il est parti de ce monde seulement pour les choses spirituelles. Mais il te dit, mais qu'est-ce que tu vas lui demander une bracha maintenant pour avoir des enfants, pour, je sais pas, pour la parnassa alors qu'il est niftar? Il y a des gens qui vont te dire un tzaddik est niftar, on te demande des brachot seulement pour ce qui est spirituel. Demande-lui une bracha pour bien étudier la Torah, pour bien faire une bonne fila. Mais il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que tu vas avoir un tzaddik pour lui demander des brachot physiques, alors qu'il est niftar, il n'a plus de physique. Qu'est-ce que tu réponds ici? Il te dit, beferush itmar bezohar akadosh. Il est écrit explicitement dans le Zohar, des tzaddikaya meginin al alma, que les tzaddikim protègent le monde. Et le Zohar dit là-bas, ou bemitathon yatir mibrayon, que les tzaddikim protègent notre monde de leur mort, plus que de leur vivant. Plus que de leur vivant. Vous avez bien entendu. Veil male tselota de tzadikaya be'ahu alma. Dit le Zohar. Si ce n'était la tfila de tzadikim be'ahu alma dans le olam haba. Si les tzadikim ne priaient pas pour nous dans le olam haba. Loïd kayem alma rig achada. Notre monde n'aurait pas tenu ne serait-ce qu'un seul instant. Ça veut dire que les tzadikim, la tfila des tzadikim, même des tzadikim qui sont niftar matériellement, ne marche pas seulement sur le spirituel, elle marche même pour le matériel.
Mais qu'est-ce que tu fais des 70 kim? S'il n'y en a pas 70 en bas, ça va être détruit aussi.
On n'est pas dans le monde des tzadikim. Là, ce que je vais simplement expliquer, c'est qu'un tzadik continue à vivre même quand physiquement il est plus là. Seulement, le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un des deux, dans la relation entre le tzadik et le rabbi, il y a toujours un des deux qui doit avoir un aspect physique, qui doit avoir l'aspect physique pour donner à cette relation un aspect concret. Alors avant qu'il faisait, c'était le tzaddik. C'était le tzaddik qui faisait l'aspect physique, l'aspect concret. Maintenant que le tzaddik n'est plus là, c'est nous qui devons le faire à sa place. C'est tout ce qui a changé.
Comment?
Quand tu vas aller voir le kever du tzaddik et que tu vas décider de t'améliorer dans ton comportement, ça veut dire qu'il y aura une application pratique, ça veut dire que tu as matérialisé la relation qu'il y a avec ton rabbi. Tu as fait descendre dans la pratique, dans le concret. Là, la neshama peut s'exprimer. Non, c'est autre chose, ça. Le tzaddik, c'est comme un avocat. C'est une autre question, ça. Tu touches un autre sujet, là. D'accord? Vechol, akarov, el Hashem, bimishkan Hashem bechayav, kodem livracha. Et plus une personne était proche du tzaddik de son vivant, et plus il est prioritaire pour la bracha, pour la bracha qui viendra du tzaddik. Donc, je finis avec ça. Donc, avec ça, on répond à la question. On a dit que c'était la lettre que l'Admor HaZaken a adressée au Chassidim pour les consoler de... Du départ de Rabbi Menachem Mendel de Herodok. Finalement, c'est quoi la consolation? Qu'est-ce que vous retenez, Marcel? C'est quoi la consolation? En quoi il les a consolés?
Quoi? Vous allez avoir encore plus.
Je veux qu'on me réponde. Alors, le but de l'Admor HaZaken, c'était de consoler les Chassidim suite au départ de Rabbi Menachem Mendel de Herodok.
Alors, il faut comprendre que malgré, justement, il est toujours là.
Exactement. Qu'est-ce qu'il leur a fait comprendre? Il leur a dit, il est toujours là. Il est toujours là, comme on l'a dit, on dit Bet Achaim, d'accord, la maison des vivants. Mais pourquoi il est toujours là? Et pourquoi on dit ça plus sur un tzaddik que sur une autre personne? La réponse est très simple. Parce que, en vérité, quand tu veux voir ce qui te reste d'une personne, tu vois le leg qui t'a laissé. Et quand tu veux comprendre le leg qui t'a laissé, il faut comprendre dans quoi il a travaillé dans sa vie. Un tzaddik, dans quoi il a travaillé dans sa vie? Sa vie était principalement spirituelle. La relation qu'on avait avec le tzaddik était principalement spirituelle. Est-ce que le spirituel s'est évaporé? Non. Le spirituel est toujours là. D'accord? Donc ça veut dire qu'en vérité, le même spirituel qui faisait que ce tzaddik était tzaddik avant qu'il parte de ce monde, ce même spirituel est toujours là. Donc, Maneshama peut continuer à communiquer avec le tzaddik. Seulement, on a un problème. C'est quoi? C'est que puisqu'on vit dans le monde de l'action, on a besoin d'avoir une représentation matérielle. On a besoin d'avoir une application pratique. Avant, cette application pratique était au travers du visage et des sens du tzaddik. Maintenant, le tzaddik, on le voit plus. Il n'y a plus ça. La solution est très simple, c'est que quand moi je prends une bonne résolution, quand moi je vais aller au kever du tzaddik, au kever physique du tzaddik, dès que je vais donner une connotation pratique et physique, alors voilà, bien sûr c'est physique, mais le corps du tzaddik est enterré là-bas. Géographiquement il est là. Comme je vais donner une connotation pratique et physique de la relation qu'il y a entre les deux neshamot, là ça peut marcher.
Mais pourquoi j'ai besoin d'un physique si à partir du moment je dis que c'était juste une
action. Parce que, t'as expliqué, on a dit que comme on vit dans le monde de l'action, on est obligé d'avoir l'action. C'est comme ça.
Mais non, parce que là, maintenant, les sorties du. Mais non, pourquoi il est toujours là? Pourquoi il est toujours là?
Lui est sorti.
Oui, il est sorti. Bah alors justement, c'est par rapport à lui.
On vit dans le monde de l'action. Pour matérialiser.
C'est par rapport à lui, il est plus dans l'action.
On vit dans le monde de l'action. Écoute bien ce que je veux te dire. Pour matérialiser un sentiment, on est obligé, pour qu'un sentiment reste, on est obligé de le matérialiser. Ça marche pas sinon.
Faut que tu valides quand tu montes.
Je t'ai dit que c'est très simple. On dit par exemple, on a un sentiment qu'on aime quelqu'un. On aime sa femme, on aime ses enfants. D'accord? Pour matérialiser ce sentiment, t'es obligé d'avoir une application pratique. Ça veut dire rien qui dit j'aime ma femme et qui fait rien. Ça s'appelle pas de l'amour.
Le cannibale, il faut ah d'accord, j'ai compris.
Parce qu'on vit dans un monde de l'action. Dans le monde de l'action,
il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Pour qu'il y ait un vrai sentiment, ça veut dire qu'en vérité, entre ta femme et toi, c'est quoi? Entre ta femme et toi, c'est quoi? C'est une relation de Neshamot. C'est deux Neshamot qui communiquent. Mais pour que cette relation soit concrète, on est obligé d'avoir des applications pratiques. De la même manière avec mes enfants. Exactement. Il faut les enlacer, il faut les aider, il faut s'occuper d'eux, il faut penser à eux. Il faut une application pratique. D'accord? Avant, c'était le tzaddik qui faisait le boulot à notre place. Avant, c'était comme un père qui s'occupe des enfants. Les enfants ne font pas des boulots, les enfants ne font pas un travail pour penser à leur père. C'est le père qui pense aux enfants. Maintenant, le père après, physiquement, le père n'est plus là. Ou il est plus capable, ça veut dire que le père n'est plus capable d'assumer ça parce qu'il est parti. Là, dans ce cas-là, ce même travail physique, qui c'est qui doit le faire? C'est les enfants qui doivent le faire à la place du père. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord? Parce qu'avec ça, la manière comment il les a consolés, alors, c'est une consolation. Je suis pas en train de dire qu'il leur a dit, il est pas mort. Parce qu'il est mort. Et que ça demande énormément de travail et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une courbe. Ça veut dire que des fois on arrive à se convaincre.
Modo, il peut dire ça.
D'accord?
Il peut dire ça, grosso modo. Parce
des fois on arrive.
Si vous appliquez pas, vous, dans ce, vous...
Exactement. Des fois on arrive à se convaincre, des fois on n'arrive pas à se convaincre. D'accord? C'est comme ça, il y a des courbes. C'est-à-dire, des fois on arrive à se convaincre, des fois on n'arrive pas. Mais, ce qu'il te dit, c'est qu'en tout cas, sache que, en vérité, la chose pour laquelle le tzaddik nous intéressait, qui était sa relation avec la Neshama, ça c'est pas parti, il est toujours là. Donc, avec ça, on comprend qu'il n'est pas si mort qu'on croyait. Voilà, c'est la conclusion. Il n'est pas si mort qu'on croyait. Il est niftar, physiquement, mais la Neshama reste toujours là. Là, maintenant, avec ça, on comprend pourquoi, quand elle a Hiloulet dans le tzaddik, on va le voir. On va à sa tombe, pour donner une connotation physique à la chose. Dès qu'il y a une connotation physique, là, notre Neshama peut communiquer avec la Neshama. Et là, ça marche. Et là, automatiquement, ce qui se passe, c'est que comme le tzaddik est généreux, alors quand il monte, chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit que chaque Hiloula, le tzaddik monte de grade, quand il monte, il fait monter avec lui, il emporte avec lui tous ceux qui sont attachés. Là, voilà, donc je termine avec une pub. On organise, si Dieu veut, Bezrat, je suis en train d'organiser, si Dieu veut, un voyage chez le Rabbi pour la Hiloula du Rabbi Gimel Tammuz. Donc c'est le 11 juin, d'accord? Et je suis en train de chercher des billets là. Ça va tourner entre 600 et 700 euros le billet, plus. D'accord? Non, pas vendredi. Ça va être probablement... Alors ça va être soit pour un départ dimanche, retour mardi, ou un départ lundi, retour mercredi. Enfin, ça va être 3 jours, quoi, environ. Et je suis en train de chercher les bons billets, là. Si, là, j'en ai trouvé, là. Bon, je te dirai si je l'ai trouvé. Ouais. Donc, ceux qui sont intéressés, qui me disent tout de suite.
Si on va à Miami, après on prend le train, c'est pas moins cher, non?
D'accord, voilà.
Aller-retour, 480.